la ton souvenir.
Ay, mamá, vuélvalo, vuélvalo.
Ábreme la puerta, dime tú.
¿Qué la planeta, sí?
Sur CIC, à programme de l'Église de 11h à 13h, chaque dimanche. Popourri, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Soyez des nôtres, sur CIC, 89,5 FM, Popourri, une émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Direct du campus universitaire de l'Université de Toronto, Frost House. Bienvenue à votre magazine de la francophonie en ce dimanche 26 février, 84e, ah oui, cérémonie des Oscars aujourd'hui. Ce serait bien d'être à Los Angeles, pourquoi pas. L'ingénieur du son, le capitaine devra assister de Marc-André et Morgane au microphone. Eric Kader avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Pour nous joindre tout au long de cette émission, tot.pourri@simpatico.ca ou encore inscrivez-vous sur notre page facebook.com/pourri sur un seul mot. Et oui, et le tour est joué. Et oui, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine un peu spécial aujourd'hui parce que c'est la clôture du mois de l'histoire des Noirs, mais aussi nous continuons à célébrer notre 25e anniversaire à l'antenne. Nous allons aussi parler de francophonie, nous allons parler du Sénégal, de l'île de la Réunion et aussi d'un rapport sur la francophonie à Toronto, sur le service en français et les commentaires de commissaires de la francophonie ici, de la commission des affaires francophones. Et tout ça, bien sûr, avec des invités qui ont répondu à un sondage lancé cette semaine. Pourquoi le mois de l'histoire des Noirs? A-t-on besoin vraiment d'un mois de l'histoire des Noirs au Canada, à Toronto, en Ontario? Eh bien, il y a des gens qui ont répondu, il y a des bonnes réponses, il y a des mauvaises réponses, mais aussi il y a des gens, et des castes actives, d'ailleurs, des gens, des auditeurs qui ne nous laissent pas indifférents. Nous allons essayer d'en parler avec une auditrice qui nous écoute régulièrement. Pour nous joindre tout au long de cette émission, et si vous voulez participer à notre débat, sondage, 416-946-7000, où que vous soyez à travers le monde. Le thème de cette émission aujourd'hui, notre histoire canadienne, faire de l'engagement communautaire une priorité en ce dimanche 26 février. Bien le bonjour à tous ces gens qui nous écoutent régulièrement et ceux et celles qui nous appuient depuis très très longtemps. Et grâce à vous, ça fait 25 ans qu'on est là à l'antenne. Nous sommes à l'Université de Toronto. Vous êtes bien sûr cordialement invités à venir nous rendre visite un de ces dimanches et visiter les locaux, les nouveaux locaux studios de RFI, j'étais pour dire RFI, mais non, de CUTFM. Et bien sûr, grâce à nos partenaires de RFI que nous avons rencontrés récemment en France, nous aurons peut-être quelques surprises pour vous d'ici à la fin de l'année. Alors, résultat d'un sondage d'opinion mené au Canada et dans d'autres pays sur le racisme, les préjugés. Pour conclure ce mois de l'histoire des Noirs, notre équipe a sollicité votre avis sur le mois de l'histoire des Noirs. Pensez-vous que ce devrait être un événement célébré partout dans le monde? Nous attendons votre appel. Morgan est ici et vous répondra bien sûr. 416-946-7000. Une auditrice a accepté de nous partager ses perspectives. Nous l'aurons avant la fin de la première heure. Morgan est en train de communiquer avec elle. Et enfin, nous ferons le point sur les films et documentaires retraçant les contributions des personnes de race noire au Canada. Dans le journal Express de Toronto, notre journal partenaire à cette émission, l'Alliance française de Toronto a le vent dans les voiles, comme on dit, et espère obtenir rapidement les permis de construire relatifs à l'extension du bâtiment historique du coin Spadina et afin d'engager les travaux au début de l'été 2012. L'annonce officielle de la construction a été faite samedi dernier. Il y avait pas mal de gens. Ça fait d'ailleurs 110 ans que l'Alliance française existe, vit ici à Toronto et se multiplie comme des champignons un peu partout à travers la ville. Et puis le rapport Drummond, des opportunités à saisir par les francophones, réaction de François Boileau, commissaire au service en français de l'Ontario. Et il appuie plusieurs recommandations présentées le 15 janvier dernier dans le rapport de la Commission sur la réforme des services publics de l'Ontario, présidée par l'économiste Don Drummond. Ce rapport fait œuvre utile, dit-il, mais en même temps, il insiste qu'il existe de nombreux exemples d'organismes francophones qui offrent des services en français au nom du gouvernement de l'Ontario de façon efficace et efficiente. Plusieurs sont même en mesure d'offrir des services dans les deux langues. Ils font partie de la solution recherchée par le gouvernement. Et enfin, le commissaire exhorte la communauté francophone de l'Ontario, des centres communautaires, cliniques de santé, conseils scolaires, à s'impliquer dans la réforme des services publics en offrant des solutions pratiques au gouvernement qui doit réduire son train de vie. Dakar, nous avons reçu un petit message de notre correspondant et ami auditeur qui nous écoute peut-être sur Internet. Le Sénégal, comme vous savez, s'apprête à vivre aujourd'hui l'élection présidentielle la plus contestée de son histoire récente, dans l'ombre des violences qui ont suivi la validation de la candidature du président sortant, Abdoulaye Wade, en quête d'un troisième mandat. Nous allons en parler lors du reportage de RFI dans la deuxième heure. Et puis Saint-Denis, l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, pas très loin de l'île Maurice, des violences de moindre ampleur que les jours précédents éclataient vendredi soir à la Réunion, en dépit de l'annonce par le préfet de l'île d'une baisse des prix des carburants et des produits de première nécessité. Le bilan de ces troubles établi samedi matin par la préfecture fait état d'une dizaine de commerces dégradés ou pillés, de 17 véhicules incendiés, de 10 gendarmes et policiers blessés par des jets de pierre ou des cocktails Molotov. Ça va très mal d'ailleurs dans ce pays. Ça fait très longtemps que les Réunionnais ne sont pas très contents. Il y a un taux de chômage élevé dans ce pays qui est toujours attaché à la France, je vous rappelle. Haïti, la démission vendredi du premier ministre haïtien Garry Conille, 4 mois à peine après sa nomination, ouvre une nouvelle crise politique dans le pays ravagé en 2010 par un violent séisme dont ils peinent toujours à se remettre. On dit bien le bonjour à tous nos amis haïtiens de la région qui nous écoutent. Et puis Paris, la France, The Artist a triomphé vendredi au César du cinéma, remportant 6 prix dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur. Et on en parle, on en fait le point. Et d'ailleurs, est-ce que ce film sera le film choisi par les jurys aujourd'hui à Los Angeles? On verra bien, c'est pas gagné. Et puis le gala donc 2012 des Oscars, c'est ce soir. Votez pour vos candidats, pour vos films favoris. Téléphonez-nous et gagnez un t-shirt de CIUT, 86-946-7000. Et nous allons voir si Monsieur Lazare de Philippe Falardeau, le Québécois, sera le grand gagnant. Parce que CNN, d'après CNN, on prédit la victoire de Monsieur Lazare. Croyez-le ou pas, un film québécois sur CNN. Et puis, on fera aussi le point sur les émissions à venir et surtout le mois de la francophonie, la journée internationale de la francophonie. Si vous voulez être parmi nos partenaires, eh bien, vous nous appelez au 416-946-7000 ou vous nous envoyez un message tout au long de la semaine sur Facebook ou encore par courriel pot.courrier@simpatico.ca. 25 ans déjà. CUT FM, la diversité.
Alerte. Alerte. sacrifice. L'histoire glorieuse, mythique de notre lutte pour la liberté.
Lorsque j'ai entendu la musique nickel à la radio, j'ai insulté de joie. En disant, ça y est, on a gagné. Non, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu.
Yo, ça vient de la terre-mère, c'est l'Afrique scolaire, c'est un morceau vénère, un morceau vénère, qui a traversé les mers. Ça va le fait de balle, ça change de la c'est le glas, c'est le sang, c'est l'amour et la haine de con qui n'a qui saigne. Ça joue au foot à la Wallée, et pas leur petit ordre fait du genre un balai. C'est aussi pur que rien d'enfant, c'est innocent, c'est sourire, mais ça montre et serre ses dents. Ça mange un peu de tout, parfois ça devient fou, ça préradera à travers, et le contenu le tout puissant pour voir ses rêves devenir grand. Oh, il y avait Malcolm X, il y avait Olympio, oh, il y avait Sagara.
Notre histoire canadienne, faire de l'engagement communautaire une priorité. Pourquoi le mois de l'histoire des Noirs est-il nécessaire? En décembre 1995, le Parlement fédéral du Canada a adopté une résolution faisant officiellement du mois de février le mois de l'histoire des Noirs en reconnaissance des sacrifices et de la contribution des Canadiens d'origine africaine. Ce témoignage arrivait cependant avec 400 ans de retard. Eh oui, les Canadiens de race noire font partie des nations fondatrices ayant contribué au développement de notre pays, le Canada. Des documents historiques démontrent que Mathieu Da Costa a été la première personne d'origine africaine à poser pied sur ce qui devint en 1604 avec l'arrivée des explorateurs français Pierre Dubois de Mont de Samuel de Champlain, le Canada. Bien que Da Costa était un homme libre, agissant en tant qu'interprète entre les Européens et le peuple Micmac, l'établissement de milliers d'autres personnes d'origine africaine au Canada demeura un secret bien gardé. L'esclavage a existé, et oui, au Canada, de 1628 à 1793. Olivier le Jeune fut le premier Africain à être réduit à l'esclavage. Il a été amené de force au Canada lorsqu'il était enfant et a pris le nom d'un de ses propriétaires qui était prêtre. Ce n'est qu'en 1793 que le Haut-Canada adopta la loi sur l'abolition de l'esclavage interdisant l'entrée d'esclaves au pays. En 1779, ayant acquis leur liberté en joignant les rangs de l'armée britannique pour prendre part à la guerre de l'indépendance américaine, 1775 à 1783, des milliers d'Africains se sont établis au Canada. Près de 10% des loyalistes de l'Empire uni, résidant dans les maritimes, étaient de descendance africaine. Mais pourquoi? Mais pourquoi le mois de l'histoire des Noirs est-il nécessaire? Ben, parce qu'il faut, d'après les médias, d'après les gens sondés, y compris des Canadiens de souche, il faut sensibiliser le public au passé, renforcer le pouvoir des Canadiens d'origine africaine et affirmer leur identité. Les Canadiennes et les Canadiens doivent être en mesure d'apprécier l'histoire des Africains au Canada ainsi que leur contribution à la société canadienne, à ses valeurs et à ses institutions. À titre d'exemple, il est important de reconnaître la contribution des Africains en matière de défense du pays et de protection des valeurs démocratiques canadiennes. Souvenez-vous, pendant toute la période s'étendant de la Révolution américaine, 1775 à 1783, la guerre de Corée, en 1950 ou 1953 environ, les Canadiens d'origine africaine ont sacrifié leur vie pour protéger la liberté. Et oui, cet apport est partiellement reproduit dans le documentaire intitulé « Honor Before Glory », rapportant la formation du seul et unique bataillon entièrement composé de militaires de race noire lorsque le Canada a participé à la Première Guerre mondiale. Le bataillon construction numéro 2, construction number 2, si vous préférez, a été formé à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Le documentaire est basé sur les faits décrits dans le journal du révérend William White, qui était aumônier et à cette époque le seul officier commissionné de race noire de toutes les forces armées britanniques. Ce n'est qu'en 1987, à Pictou, que le rôle de ce bataillon a été reconnu dans l'histoire du Canada. Malgré les nombreuses contributions importantes à des Canadiens d'origine africaine et à la société canadienne, nombre d'entre eux sont encore confrontés à la discrimination et au racisme systémique dans ce pays. Dans l'ouvrage Color of Democracy, Racism in Canada Society, c'était en 2006 plutôt, les auteurs Henry et Tater nous rappellent que l'esclavage des Africains ainsi que la ségrégation raciale et la discrimination dont étaient victimes les personnes de race noire libérées font partie intégrante de l'histoire du Canada. Elles ajoutent que les écoles réservées aux élèves de race noire, tenez-vous bien, étaient typiques de l'éducation des Noirs de la Nouvelle-Écosse et dans une moindre mesure du Nouveau-Brunswick. Eh oui, les écoles ont existé en Ontario et en Nouvelle-Écosse jusqu'en 1960. Eh oui. La société canadienne d'aujourd'hui doit relever donc deux principaux défis à notre avis. En premier lieu, il est essentiel de tenir compte de la souffrance des victimes de l'esclavage et du racisme dans l'histoire de notre pays. Nous devons en effet comprendre et apprécier la contribution des Canadiens d'origine africaine et reconnaître les nombreux sacrifices qu'ils ont faits afin de préserver la société canadienne et ses valeurs. En second lieu, bien que le Canada soit reconnu à l'échelle internationale pour son engagement à l'égard des droits de la personne et de la lutte contre toute forme de discrimination, y compris le racisme, il accuse toujours un certain retard en matière d'éradication de la discrimination. Plusieurs instruments juridiques, législatifs, comme la Charte des droits et libertés de la personne, la loi sur les langues officielles, la loi sur le multiculturalisme canadien, la loi sur l'équité en matière d'emploi et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés existent, mais différents obstacles à l'emploi, à l'obtention de promotion et autres formes d'exclusion perdurent partout au Canada pour les personnes de race noire. C'est un fait. Comme le rapporteur spécial des Nations Unies l'a indiqué dans le document qu'il a soumis après sa visite au Canada en 2004, il ne suffit pas de nous doter de lois. Encore faut-il les appliquer adéquatement et efficacement. Pourquoi ne pas commencer cette année, maintenant? À bon entendeur, salut.
Ou pediu amérindien, ou pediu se afrinien, ou pediu se zindien, non sot matinitie.
Kapwa nou an lorande, ou kompan se mounye, e apresan nou atye, nou sa pou matinitie.
Ou pediu evropeyen, ou pediu amérindien, ou doa diu karibéyen, non sot la matinitie man vade.
Kapwa nou an lorande, ou kompan se mounye,
I'm going to go to the hospital.
Mois de l'histoire des Noirs, c'est la clôture bien sûr de ce mois, dernière émission de ce mois, mais nous la célébrons à chaque dimanche, la diversité, pas seulement le mois de seulement la culture noire ou des personnes de race noire, mais tout au long de l'année, nous célébrons les minorités de ce pays, de ce campus universitaire de Toronto. Venez nous rendre visite. Alors, le numéro à composer, madame, monsieur, si vous avez des commentaires ou encore vous avez des réactions, des perspectives sur le mois de l'histoire des Noirs, c'est le 416-946-7000, ou envoyez-nous un message sur pot.courrier@sympathico.ca. Notre histoire canadienne, faire de l'engagement communautaire une priorité. CIT 89,5 FM, Toronto. Mesdames, messieurs, vous écoutez pour CIT 89,5 FM. J'espère que ça va bien chez vous. Si vous êtes en train de bruncher, ben on vous dit bon appétit. Eh oui, le temps passe. On est rendu le 26 février et la question de ce mois, de ce jour, de ce dimanche, est-il important d'avoir un mois célébrant l'histoire des Noirs au Canada? 416-946-7000. Je pense que nous avons reçu quelqu'un, n'est-ce pas, Morgan, qui a répondu à notre question et qui sera des nôtres dans quelques minutes, n'est-ce pas? Vous avez ses coordonnées. Je trouve ça formidable, les gens qui ont répondu, mais en même temps, il y a des gens qui sont sceptiques de toutes ces célébrations. Il y en a aussi qui disent qu'on n'a pas fait assez de progrès. Et d'ailleurs, il y a des rapports scientifiques qui le prouvent. Mais l'émission d'aujourd'hui, et ce rapport, et ce sondage, et le résultat de ce sondage ne se veut pas être scientifique. Non, 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 non. C'est juste pour avoir un peu... tâter le pouls, comme on dit. Fonder le terrain de notre auditoire. Et si vous voulez être de la fête, Eh bien, vous nous appelez au 86-987-7000 ou encore pot.courrier@sympatico.ca. Il y a un monsieur qui nous dit, parfois il y a des personnes qui ne rentrent même pas, il y a des tragédies, on n'en parle même pas. Cette immigration francophone, on a tant besoin au Canada pour garder la francophonie en vie. Il y a aussi des gens qui arrivent de l'Europe, qui sont coincés, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Mais ça doit être encore pire pour les personnes de race noire et surtout les personnes d'origine africaine. Et puis, il y a beaucoup qui nous ont donné des indices sur des documentaires, des films et des livres très intéressants sur la contribution des Noirs au Canada. Il y a aussi des documentaires en français. Ouais. Bravo. J'essaierai de présenter tout ça à nos auditeurs avant la fin de l'émission. C'est promis. Il y a un autre monsieur qui nous dit « L'esclavage chez nous, une histoire oubliée ». Une dame qui nous dit « Oui, il est important que tous prennent connaissance de l'histoire des Noirs au Canada ». Et saviez-vous que le mois de l'histoire des Noirs n'est pas célébré seulement en Amérique du Nord, mais aussi au Royaume-Uni? Pensez-vous que ce devrait être un événement célébré partout dans le monde? Et oui, pour répondre à notre question, oui. Oh, quel merveilleux orchestre! Merci beaucoup, Marc-André. Vous êtes formidable. Et oui, notre ami Morgane attend votre appel au 46-946-7000. Allez, à toi, Marc-André. Il est beau, hein? Je ne savais pas que tu étais un batteur, un musicien chevronné comme ça. Ça fait du bien, mesdames, messieurs. Vous écoutez pas pourri. CUT 89-5FM, Toronto.
Dans les fruits qu'on récolte et dans ce que l'on sème, dans nos cris de révolte et dans le son qu'on aime, dans les chants des griots, dans les chants de tarot. Chemin de pierre, de sable, des esclaves, sous les rebelles minables, de gorée des entraves. Sur notre peau des veines, marqué au fer rouge, sur le drapeau, la haine des roulés qui nous ronge. Sous chaque arbre, sous chaque âme, sous le grand baobab, sous nos ailes calmes à charge d'armes, le sang qui bat, c'est le tambour. Sous le regard, sous votre rare, sous un bavard, sous nos nabas gouverneurs, sous le sol exactement, sous vos yeux aveuglement, de notre histoire, sonne le tam tam. D'Afrique franc, premier se souvient de nos corps assénés, rugissant de fond, de ses coups encaissés, ses déchirants enfants, nos coucous canadiens écrivent le refrain.
Mémoire de continent.
La terre mère africaine, si même si soit violée, si aisement pillée, ses éléphants tués, ses ancêtres en colère, de ses droits, de ses espoirs, de ses gloires, quelque part dans les livres d'histoire, comme la couleur de notre peau sombre et l'attrait du grimoire, de la magie qu'elle frit, nos héritages et notre espoir, au poids, c'est la paix. Au son d'une diaspora qui vient vous chanter les richesses de nos patries, des enchantés, vous le voit prier. Du Mozambique et les diamants de Kigali, où l'on peut goûter les pierres de Centrafrique et les trésors de Djibouti. Mais c'est toujours le fer rouge de l'île de Corée qui bat dans notre sein au son des termes de l'Afrique. Dans nos cultures vaudous, des religions qui viennent d'où. Nous tiennons les miens si, nous tiennons les miens bons. Voyons plus, nous défendons les miens bons, nous tiennons les yoko. Mi font les miens des sons. Gamme son Afrique, mi gana, mi gamme, que la wena mio. Mi doto les miens c'est.
CIUT 89.5 FM, Toronto, presenting the history and the evolution of the sound for 25 years and counting. CIUT 89.5 FM, Toronto.
C'est pour vous et surtout pas un soir avec vous que je suis ce chemin qui m'a choisi. Et sans vous il ne resterait rien du tout. Je serai ce seul dans nos mémoires. J'en ai dans le vide pour tout ça. Laissez-moi détacher. J'aime goûter dans le soleil. C'est là nous faire en mitonnerre. Oui, ça c'est tellement joli. Il m'a fallu parfois tant de courage et de joie pour rester sur ce chemin que j'ai choisi. Et c'est en vous que je puisse m'énerver chaque fois. Avant ça fini, avant de partir, quand il va tout passer à ma vie, laissez-moi dépasser. Oh. Et puis on dit tout ce fait, tout le monde dit que sans bonheur. Voyez-moi
belli dei più, ti vanno a sapere dalla vita, a me lo dico io un po' per più, a me vai a dire non ti amo più, ti dice me va un po' per cai, perché non abbiamo con te, lei è una canzone di vita, tu mi dica che ti giudia.
Vous écoutez Popori CUC 89,5 FM, vous entendez en ce moment les nouveautés des musiques des Antilles grâce à Radio France Internationale, musique à qui nous disons un grand merci. Alors, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs, nous clôturons ce mois, madame, monsieur, quel genre d'activité devrait-on organiser à cette occasion à Toronto? Est-ce qu'on en fait assez, pas assez? Dressez une liste de 5 activités au moins et téléphonez-nous immédiatement au 416-946-7000. J'aimerais vous dire rapidement quelques suggestions que nous avons reçues, entre autres côté film, cinéma, âme noire, une réalisation de Martine Chantran, c'est une production de l'Office national du film. Ça a été présenté en l'an 2000. Ce film convie le spectateur à une plongée au cœur de la culture noire, un rapide et exaltant voyage à travers les lieux qui ont marqué l'histoire de ces peuples. C'est un film à voir absolument, film sans parole, des extraits de certains documentaires, du gospel, du jazz, des noirs en exil, des rythmes noirs, des percussions. Enfin, c'est un film à voir absolument. Et puis un autre film, Au nom de la mère et du fils, une réalisation de Marine Le Gagneur, une production de l'Office national du film toujours, en 2005. Le film Au nom de la mère et du fils nous plonge en plein cœur du quartier Saint-Michel à Montréal, où l'on suit deux jeunes Québécois d'origine haïtienne dans leur quête d'espoir et de liberté, alors que leurs parents ont quitté Haïti pour venir s'installer au Canada et ont dû tout recommencer à zéro. James et le voyou cherchent eux aussi, chacun à leur façon, à prendre leur envol. Voilà, Au nom de la mère et du fils de Maril Le Gagneur, l'ONF. Marron, c'est la piste créole en Amérique, une réalisation de André Gladu. Toujours une production de l'ONF en 2005. Marron, c'est la piste créole en Amérique qui nous présente un visage dont on parle peu. Une Amérique enracinée dans les bayous de la Louisiane. Une Amérique aux origines noires francophones qui se bat pour la survie de sa culture comme leurs ancêtres esclaves se sont battus pour la leur. Et enfin, métissé serré. J'aime bien ça parce qu'on dit tricoté serré et là c'est métissé serré. De Radio-Canada International, les jeunes cinéastes ont répondu à nombreux, étaient nombreux à répondre à l'appel de Radio-Canada. C'est un concours métissé serré, court-métrage sur le thème de l'immigration, portrait inspirant, sujet à réflexion, témoignage bouleversant. Un échantillon de ces films, dont quelques-uns réalisés par des cinéastes de Québec, témoignent de façon intelligente et dynamique de l'évolution de notre société. Il y a aussi d'autres films que je vous parlerai tout à l'heure et aussi une série de publications très 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 intéressantes. Ne partez pas, dans un instant peut-être, nous aurons les perspectives en direct d'une auditrice qui a bien voulu répondre à notre petit sondage de cette semaine.
Vous écoutez Popori, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde, sur la bande CUT 89,5 FM. Une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Popori, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
5 FM et nous sommes dans ce marathon, émission clôturant le mois de l'histoire des Noirs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires laissés sur notre page Facebook, mais aussi à notre adresse électronique cette semaine. Alors, les commentaires et incidents racistes, qu'on pourrait dire au Canada, ne passent pas inaperçus, surtout auprès des jeunes. En effet, selon un sondage Léger Marketing, on a obtenu une copie. Une majorité de Canadiens dit avoir entendu un commentaire raciste au cours de la dernière année. Près d'un tiers d'entre eux ont été témoins d'un incident raciste, ou bien que les Canadiens estiment que les incidents de racisme aient augmenté partout dans le monde. Ils doutent que cela soit le cas dans leur cours. Et ici, on parle surtout des éléments qui affectent les personnes de race noire d'origine africaine. Selon le sondage, en 2011, donc l'année dernière, ce sont les 18 à 24 ans qui sont les plus susceptibles d'avoir entendu des commentaires racistes, que ce soit à l'école, dans leur milieu universitaire ou au travail, et ou d'avoir vu des incidents de racisme. Dans l'ensemble, la proportion de gens qui ont vu un geste raciste au cours de l'année dernière est de 31%, mais chez les jeunes de 18 à 24 ans, elle grimpe à 50%. Eh oui, 50%. Ils sont aussi très nombreux, soit 81%, à dire qu'ils ont entendu un commentaire raciste. Au Québec, les résidents sont moins enclins à rapporter des manifestations de racisme qu'ailleurs au Canada. Ils étaient 56% l'année dernière à signaler un commentaire raciste contre 72% dans les autres provinces du Canada. Ils étaient 23% à avoir été témoins d'un incident raciste contre 33% ailleurs au Canada. Toujours on parle du Québec. Alors on peut vous livrer des chiffres comme ça. En Colombie-Britannique, en Alberta, Manitoba, Saskatchewan, la proportion de répondants ayant signalé des commentaires racistes ou des incidents. Tout cela vous montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le cadre des relations interraciales. A-t-on besoin d'un mois de l'histoire des Noirs, faire de l'engagement communautaire une priorité? Résultat de notre petit sondage dans un instant avec une auditrice incroyable, mais oui, qui nous écoute régulièrement. Alors, bonjour madame, je pense que nous avons une auditrice qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Oui, est-ce que vous pouvez nous présenter? C'est Annie, je pense, hein?
Oui, oui, je m'appelle Annie Lazieri.
Oui.
Bon. Et je suis canadienne d'origine de la République démocratique du Congo.
Ah ben bravo, bienvenue à l'émission.
Oui, je suis aussi la coordinatrice du développement communautaire.
Dans la région de Toronto?
Oui, dans la région de Toronto, nous occupons de la prévention et de soutien aux personnes vivant avec le VIH-SIDA. Mmh. Et l'organisme s'appelle les Africains en partenariat pour les luttes contre le VIH-Sida.
Ah ben bravo pour cet excellent travail. On a besoin des gens comme vous et comme votre organisme. Alors, dites-moi, quand on a envoyé le sondage, on a reçu beaucoup de réactions. Il y a des gens qui ont été même très durs, mais nous respectons bien sûr les perspectives et les commentaires et même les critiques des personnes. Et vous, bon, il y en a qui veulent témoigner publiquement, d'autres, ils ont peur de représailles. Et oui, tenez-le ou pas, il y en a qui ont peur de parler en ondes à la radio. Et vous, vous avez dit, oui, ben pourquoi pas, vous m'appelez dimanche matin, cela me fera plaisir de partager mes commentaires, mes points de vue à notre auditoire. Alors bravo, félicitations et merci d'être là. Alors d'après vous, est-il important d'avoir un mois célébrant l'histoire des Noirs au Canada, à Toronto?
Oui, c'est vraiment important, surtout pour nos jeunes et nos enfants. Il y a la plupart des jeunes noirs qui se sont un peu fixés et ils ne veulent pas se reconnaître en tant que les Noirs. Et la meilleure des choses qu'il faut faire, il faut qu'on puisse multiplier des événements, c'est pour que nos jeunes aussi puissent se sentir et bienvenus, même s'ils sont noirs. Parce que la plupart des informations qu'on montre à la télé, on montre que les Noirs sont incapables, non intelligents. Alors, je pense que quand on m'a envoyé ce petit note, je disais, bon, on pouvait mieux faire plus que ça, ce que nous faisons présentement.
Oui. Annie, quel genre d'activité, quel genre d'événement devrait-on organiser dans la région de Toronto?
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres activités que ce que nous faisons présentement. Mais ce qu'il faut un peu améliorer, ce que nous pouvons faire, par exemple, des festivals, nous pouvons faire des forums, des conférences, des symposiums ou des compétitions. Et reconnaître aussi les Noirs qui ont émergé dans la société canadienne. C'est comme on a notre l'exemple que nous avons toujours, c'est Michael Jean. Je pense qu'il faut faire, il y a aussi d'autres femmes qui ont émergé et des hommes qui ont fait mieux, que ce soit dans les domaines de peut-être de la musique, qui ont émergé, on peut faire dans la maison comme nous, et communautaire, et puis il y a aussi dans la littérature, il faut que nos jeunes puissent savoir ça. Je pense que c'est ce que j'avais dit dans la petite note que j'avais envoyée.
Est-ce que, d'après vous, il y a encore beaucoup d'obstacles qui empêchent des jeunes ou bien des personnes d'origine noire à prendre part à des activités de nos institutions, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent avec des compétences, mais qui ne sont pas toujours reconnues au Canada pour différentes raisons. Et donc, cela laisse quand même un doute planer dans la tête de ces jeunes qui ne voient pas leur père ou bien leurs aînés accéder à des postes de responsabilité. Pensez-vous qu'il y a encore du chemin à faire pour ouvrir les portes, briser les barrières, les obstacles, afin que des personnes de race noire arrivent à accéder à des postes de responsabilité dans ce pays?
Ça, c'est vrai, parce que, comme vous le savez, la plupart des Noirs, nous venons ici, nous laissons tout ce que nous avons mis dans nos pays, mais la seule chose que nous amenons, c'est nos bagages intellectuels. Mais quand nous arrivons ici avec le problème des langues, et nous faisons nos mieux pour que nous puissions nous intégrer. Mais ce n'est pas assez, comme je peux dire par exemple des médecins. Nous avons des médecins avec nous qui étaient à temps plein, qui ont travaillé pendant 20 ans. Et maintenant, ils vont ici, ils se retrouvent avec nous, les travailleurs communautaires, en train de faire des présentations, animer des ateliers. Et j'en passe, beaucoup de choses qui se font. Alors je pense qu'il y a beaucoup un long chemin à faire dans la communauté noire, particulièrement avec les hommes. Les femmes, au moins, ils ont un peu intégré, parce que nous avons un peu de femmes qui sont devenues des directrices dans des organismes communautaires. Mais ce qui est beaucoup mieux à faire encore, je pense, c'est dans le domaine de la médecine, il y a encore, et puis dans le domaine aussi, comme la magistrature, comme beaucoup de choses, je pense, qui occupent des rôles, là, c'est un peu difficile.
Quel est, d'après vous, Annie, le tabou qui empêche les personnes, surtout les hommes de race noire, à réussir leur vie et à accéder à des postes de responsabilité au Canada? Est-ce qu'il y a encore des tabous, il y a encore des incompréhensions? D'après vous, quels sont ces obstacles?
Moi, je pense que c'est le système qui constitue un obstacle. La société canadienne favorise beaucoup les femmes plus que les hommes. Et puis, chez nous, en venant, les hommes occupaient les rangs plus hauts, mais en arrivant ici, ils sont les dernières personnes à être considérées. Alors, ils se sentent un peu frustrés. Il n'y a pas de programme pour les hommes. Il n'y a rien, absolument rien. Je peux vous parler même dans le domaine où moi je travaille, dans le domaine des VIH. Je pense qu'il n'y a même pas des activités pour les hommes. Alors nous avons décidé de dire non. Pour nous, la culture, l'homme est le, je sais pas, l'autorité de la maison, mais on, et le système un peu canadien ne leur a pas fait cet honneur. C'est pourquoi ils se sentent délaissés à eux-mêmes. Et nous avons décidé maintenant à avoir des groupes et animés par les hommes et des groupes des hommes qui vivent avec le VIH-Sida. Alors, pour répondre à votre question, ce que je veux dire, c'est juste dire que les hommes africains se sentent frustrés, sont laissés à eux-mêmes, on ne les considère plus, si je peux dire cela. C'est pour cela que c'est difficile pour eux à s'intégrer dans cette société. Si le gouvernement pouvait aussi un peu considérer, puisque maintenant la société canadienne a changé, ce n'est plus ce qui était le système, pour que ces hommes aussi puissent se sentir que ils sont le bienvenu au Canada et particulièrement à Toronto, en Ontario.
Ah ben, merci beaucoup de ce témoignage, Annie Laziri. J'espère qu'un jour, on pourra organiser un forum débat en direct à la radio. Les micros sont ouverts, la radio est ouverte. Si vous voulez qu'on parraine une de vos activités ou qu'on organise des activités pour les jeunes de votre région, envoyez-nous un petit courriel et j'espère que vous serez parmi nos amis de la radio pour de très très longues années. Je vous remercie encore une fois de la part de toute l'équipe et bon mois de l'histoire des Noirs et puis bon courage pour tout le travail que vous faites à Toronto. Vous nous faites honneur d'ailleurs. Je trouve ça formidable, vous et votre équipe, de contribuer bénévolement pour une très bonne cause et une cause si importante. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi de m'avoir donné la chance. Merci.
Allez, au revoir, Annie. Au revoir. Alors, merci. Annie Laziri, madame, monsieur, c'était une façon pour elle de répondre. Et nous chantillons, hein, en interviewant une personne comme ça. Imaginez, il y a eu 25 réponses. Alors, sondage, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup, Annie Laziri. Vous écoutez Popouri, CUT 89,5 FM.
La la lé, lé. Yeah, la 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 lé, lé. La la lé lé, yeah la 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 lé lé. La la lé lé, yeah la 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 lé lé. Yeah la 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 lé lé, ya la 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 lé lé.
Respectez-moi, je vous prie, vous la vie. Respectez-moi, et vous prie.
Quelle belle chanson. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous envoyaient des commentaires cette semaine. J'aimerais offrir cette émission, cher Morgane, Marc-André, le capitaine, à une personne qui a vraiment créé un séisme.
Mais je veux dire un séisme à Paris, vendredi soir. J'y étais, j'ai vu de mes yeux vus. Oui.
On sait qu'il y a eu la remise des Césars du cinéma. Bien sûr, The Artist a remporté, raflé pas mal de prix. Mais d'après vous, l'artiste, le comédien, l'acteur qui a eu le premier prix pour son rôle dans Les Intouchables, c'est un noir. Omar Sy. Eh oui, qui a remporté le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Les Intouchables, qui bat tous les records en France. J'aimerais bien que ce film, un jour, soit sur nos écrans, à Toronto. Si les Franco, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, bravo. Donc, cette émission est en hommage à Omar Sy, et je vais demander à Morgane de faire toutes les démarches possibles et nécessaires pour avoir Omar Sy à l'émission très prochainement. Eh oui, Omar Sy, qui a remporté le César du meilleur acteur pour son rôle dans Les Intouchables. Je pense qu'il est d'origine sénégalaise, si ma mémoire est bonne. Alors bravo, bravo, il a fait une petite tour de danse sur la scène, c'était formidable.
From the roof up, CIUC 89.5 FM,
vous écoutez Popourri CUT 89,5 FM, ne partez pas, dans la deuxième heure nous allons vous passer, oh oui, en primeur, en premier mondial comme on dit, quelques succès de Radio France Internationale, mais aussi de nos autres radios partenaires de la chanson française et francophone, et puis quelques petites surprises, peut-être aussi les pronostics de les Oscars, la cérémonie, c'est ce soir. Où serez-vous ce soir et avec qui? Moi, je sais très bien comment je vais passer ma soirée. Et puis, vos pronostics, eh ben, un t-shirt vous attend. Bonne réponse, mauvaise réponse. On est là pour répondre à votre appel. C'est le 416-946-7000. Le point de l'actualité africaine et internationale avec Radio France Internationale. RFI Afrique.
Romain Ouzoui.
Bonjour à tous et bienvenue. C'est le grand jour au Sénégal. Les bureaux de vote vont s'ouvrir dans moins de 5 heures. 14 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle. La journée d'hier, marquée par la tentative de conciliation effectuée par l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, tentative rejetée à la fois par le clan d'Abdoulaye Wade et par le mouvement du 23 juin. Nelson Mandela devrait quitter l'hôpital ce dimanche ou demain. C'est la présidence sud-africaine qui l'affirme. Elle se veut rassurante, précisant que l'ex-chef d'État âgé de 93 ans n'a pas subi d'intervention chirurgicale. Et puis les diplomates étrangers en tournée sur le continent. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en Afrique australe, Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine au Maghreb, et le chef de la diplomatie française Alain Juppé en Afrique de l'Ouest. Nous ferons le point sur ces trois déplacements dans le journal. Nous y voilà donc. 5 300 000 électeurs sénégalais sont appelés aux urnes aujourd'hui. Les bureaux de vote vont ouvrir à 8 heures ce matin, heure locale et en temps universel. Il y a 14 candidats, dont Abdoulaye Wade. C'est justement pour préparer les conséquences d'une éventuelle victoire du président sortant, Olusegun Obasanjo. Le chef de la mission de l'Union africaine avait élaboré une feuille de route. C'était dans la soirée de vendredi. Feuille de route qu'il a soumise à plusieurs responsables politiques du pays. Seulement voilà, la tentative de conciliation de l'ex-président nigérian s'est soldée par un échec. Retour sur la journée d'hier avec l'une des envoyées spéciales de RFI à Dakar, Donnay Gledu.
Il y a d'abord eu cette proposition de l'ex-président du Nigeria, suggérant aux différents acteurs de convenir qu'en cas de réélection d'Abdoulaye Wade, ce dernier accepte de céder le pouvoir au bout de 2 ans. Le mouvement du 23 juin a ensuite proposé un report du scrutin et une transition suivie d'une élection sans Abdoulaye Wade. Le tout a été sanctionné par un démenti cinglant du porte-parole de la présidence, niant l'existence de quelconque négociation. Olusegun Obasanjo lui-même a admis en début de soirée que c'est proposition avait été rejetée par tout le monde, il s'est donc contenté d'appeler à ce que le vote se déroule de façon paisible. On verra aujourd'hui s'il a été entendu sur ce point. Hier soir, en tout cas, les principaux candidats à l'élection présidentielle appelaient les électeurs à se rendre massivement aux urnes. Le M23 a donné comme consigne de boycotter les bulletins de vote d'Abdoulaye Wade, c'est-à-dire de ne pas les prendre pour se rendre dans l'isoloir. Le porte-parole du candidat président, pour sa part, s'est déclaré convaincu, je cite, que les Sénégalais choisiraient le bulletin de celui qui va l'emporter. Fin citation. Donaïk Ledu, Dakar, RFI.
Face à présent, réaction à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote au Sénégal, la confiance d'Abdoulaye Wade, la majorité est si écrasante, dit-il, que je pense être élu avec un fort pourcentage dès le premier tour. Entretien accordé à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche, le chef de l'État sortant qui a ajouté qu'une révolte des Sénégalais contre lui n'était pas pensable. Et puis à l'étranger, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a fait part de son inquiétude. Il espère que l'élection ce dimanche sera pacifique, transparente et équitable. Le monde entier a retenu son souffle en apprenant hier l'hospitalisation à l'âge de 93 ans de Nelson Mandela. Rapidement, le chef de l'État sud-africain s'est voulu rassurant. Dans un communiqué, il a affirmé que le premier président de l'après-apartheid n'était pas en danger, il souffrirait de douleurs abdominales. Mac Maharaj, porte-parole de la présidence sud-africaine.
Les médecins sont satisfaits de sa condition, la santé de Nelson Mandela est conforme à son âge. Les résultats des examens devraient lui permettre de quitter l'hôpital soit aujourd'hui, soit lundi. Il va bien, il est en bonne santé et il est entre les mains d'experts. Il n'a pas subi d'intervention chirurgicale. Je ne sais pas d'où vient cette histoire. Nous rappelons au public et aux médias surtout que le président Jacob Zuma s'est engagé à maintenir le public informé et à lui transmettre des informations qui reposent sur des faits solides. Nous souhaitons que les médias résistent à la tentation de spéculer. Nous savons bien que le monde entier s'inquiète de la santé de Nelson Mandela et nous savons qu'il est aisé de verser dans le sensationnalisme et d'inquiéter inutilement la population. Alors que nous pouvons être tranquilles, Mandela est avec nous, il va bien et nous veillons à ce que l'on s'occupe bien de lui.
Le porte-parole de la présidence sud-africaine, Mac Maharaj, au micro de Nicolas Champeau. Et nouveau point sur la santé de Nelson Mandela prévu ce matin au Cap. Le ministre de la Défense doit tenir une conférence de presse concernant donc cette hospitalisation de l'ex-président sud-africain. RFI, il est 6h35 à Antananarivo. La langue française est en fête aujourd'hui à Madagascar. L'Alliance française célèbre ce dimanche ses 65 ans d'existence. Madagascar, qui est le premier réseau d'alliances françaises en Afrique subsaharienne, et pourtant, dans les années 70-80, pendant la malgachisation du pays, eh bien, la langue française était bannie des écoles et de l'administration. Quelle place aujourd'hui à la langue française sur la grande île? C'est l'enquête de Bilal Tarabé.
Le français, c'est la deuxième langue officielle ici à Madagascar, et pourtant, plus de 80% des malgaches ne le parlent pas. C'est sur ce paradoxe que Jean-Michel Frachet a pris la tête il y a 3 ans des alliances françaises de Madagascar.
La remarque que je me suis faite, c'est qu'il y a une relation très affective que les malgaches entretiennent avec la langue française, même si parfois c'est une relation complexe. Le français est aussi la langue de l'ancien colon. J'ai vite compris que la langue française reste un outil essentiel au développement des jeunes individus à Madagascar qui ont été par moments de leur histoire privée de cette langue française, je pense notamment lors de la malgachisation dans les années 70-80. Et donc cette envie et ce besoin de français qui reste une langue de communication et qui permet l'ascension sociale et la promotion professionnelle.
Le français à Madagascar est réservé à une élite, celle qui a les moyens de payer une éducation dans des lycées privés. Dans les écoles publiques, l'enseignement se fait aussi en français, mais il y a des lacunes. Jean-Michel Frachet.
Actuellement, nous sommes en train de travailler aux côtés de l'Institut National de la Formation Pédagogique pour contribuer à la formation des jeunes instituteurs qui ont été recrutés souvent à un niveau qui ne leur permet pas de bien maîtriser le français, alors qu'on attend d'eux qu'ils enseignent à l'école primaire en langue française. Et là aussi, les alliances dans cette ville ont se mobilisé pour la mise en œuvre de ce projet.
Le nombre d'étudiants dans les alliances françaises de Madagascar a augmenté de 30% cette année. Bilal Tarabé, Antananarivo, RFI.
On entame à présent les tournées en Afrique de plusieurs diplomates étrangers de premier ordre. Commençons par celle du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en Afrique australe. Aujourd'hui, il se rend en Angola. Et voilà un sujet qui pourrait être abordé avec les autorités angolaises, celui du sort des migrants congolais expulsés vers leur pays. Beaucoup travaillent dans les mines de diamants de l'état du Lundan, Lunda Norte. C'est un sujet qui est dans l'actualité selon un rapport de l'ONU présenté cette semaine au Conseil de sécurité. Ces migrants, hommes, femmes, enfants sont souvent victimes de violences sexuelles. Les précisions de Margot Wallström, c'est la représentante spéciale de Ban Ki-moon sur la violence sexuelle dans les conflits.
Nous avons reçu des rapports concernant des actes de violence sexuelle commis dans le contexte des expulsions vers la RDC de présumés immigrants illégaux congolais. Et nous sommes préoccupés par ces rapports de violations présumées des droits de l'homme, y compris la violence sexuelle, en particulier contre les femmes et les filles. On parle de milliers de cas pendant plusieurs années. Et c'est très sérieux, mais maintenant on est engagé avec le gouvernement pour aussi mise en œuvre des mesures concrètes. Et je pense que c'est un exemple qu'on peut utiliser aussi dans d'autres situations et pays concernés.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se rend justement à Luanda ce dimanche. La question de ces violences contre les migrants congolais est-elle à l'ordre du jour?
Je pense que c'est très important que aussi le secrétaire général est très engagé sur cette question. Je suis convaincue que ça va faire vraiment une impression aussi sur le public en général en Angola.
Margot Wallström, représentante spéciale de Ban Ki-moon sur la violence sexuelle dans les conflits, interrogée par Vincent Dublange. J'ajoute, pour être précis sur le déroulement de la tournée du secrétaire général de l'ONU en Afrique australe, qu'avant de se rendre ce dimanche à Luanda, Ban Ki-moon visitera ce matin Livingstone en Zambie, qui se trouve tout près des chutes Victoria. Autre tournée diplomatique qui se poursuit, celle d'Hillary Clinton au Maghreb. Hier, c'est l'Algérie qui était à l'ordre du jour de la secrétaire d'État américaine. L'Algérie qui est un partenaire privilégié des États-Unis en matière de lutte antiterroriste. Retour sur cette visite qui intervient dans un contexte politique chargé avec les élections législatives qui sont prévues dans un peu plus de deux mois. Correspondance à Alger de Marie Auclin.
Une visite express. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est restée à Alger moins de 5 heures, le temps de s'entretenir et de dîner avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika, mais aussi de rencontrer des représentants de la société civile. Une attention interprétée ici comme une manière de soutenir les revendications démocratiques dans le pays. D'ailleurs, Hillary Clinton a insisté sur le droit des peuples du Maghreb à décider pour eux-mêmes. Le message est clair, alors que les élections législatives doivent se tenir dans un peu plus de deux mois et que l'opposition algérienne a déjà exprimé ses craintes, Washington met la pression sur Alger sur la transparence du scrutin. En janvier déjà, Hillary Clinton avait déclaré que l'Algérie a besoin d'une base démocratique qui reflète les aspirations du peuple algérien, car si l'Algérie et les États-Unis sont des alliés de longue date en matière de lutte antiterroriste, il n'en est pas vraiment de même sur le plan politique. D'ailleurs, les médias algériens n'ont pas manqué de souligner que la secrétaire d'État n'a fait que passer à Alger, alors qu'elle est restée une nuit en Tunisie et au Maroc. Marie Auclin, Alger RFI.
Et le Maroc, où Hillary Clinton doit conclure sa tournée, ce sera ce dimanche avec un entretien prévu à 11h TU avec son homologue Saad Eddine Othmani. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, doit lui rencontrer ce dimanche le président malien Amadou Toumanou Touré, comme lors de ses deux étapes précédentes effectuées lors de sa tournée au Bénin puis au Burkina Faso. Eh bien, Alain Juppé devrait évoquer la crise dans le nord Mali. Écoutez le chef de la diplomatie française, il s'est exprimé après sa rencontre hier avec le président burkinabé Blaise Compaoré.
Nous avons parlé du Mali pour encourager toutes les parties à engager un dialogue, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de dialoguer et de trouver des solutions de réconciliation nationale. Nous avons évoqué la situation au Sahel qui nous préoccupe beaucoup. La menace terroriste est pour nous une menace très lourde. Et nous sommes prêts à coopérer, bien sûr, dans cette lutte contre le terrorisme qui est d'abord de la responsabilité des pays de la région. C'est la coopération régionale qui permettra de faire reculer ce fléau. Et puis nous avons aussi parlé de ce qui se passe en ce moment au Mali avec la rébellion de Touareg. Je vous le répète, nous essayons de tout faire pour qu'un processus de dialogue s'engage. Toutes les médiations sont les bienvenues, mais le propre des médiations, c'est que quand elles se déclenchent, elles ne sont pas toujours publiques.
Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères. Il était au micro de Jean-Karine Fall, notre envoyé spécial, pour couvrir la tournée du chef de la diplomatie française en Afrique de l'Ouest. Hier, un autre membre du gouvernement français était en visite sur le continent. président. Il s'agit du ministre de la Défense, Gérard Longuet. Il était à Tripoli où il a signé une lettre d'intention de coopération bilatérale avec son homologue libyen. C'est un accord qui va notamment porter sur deux points. D'abord, une aide au contrôle des frontières libyennes et la formation par la France, formation d'officiers et de spécialistes de l'armée libyenne à Tripoli, à Blajounaïdi.
L'accord très général prévoit des échanges réguliers entre autorités françaises et libyennes. Il pourrait prendre de la substance dans l'avenir si Paris parvient à se positionner sur le dossier brûlant pour la Libye et ses voisins de la sécurisation des 4300 km de frontières terrestres. La France pourrait ainsi participer à la formation de 16 000 gardes-frontières libyens. Gérard Longuet, ministre de la Défense.
La raison principale de ma présence, c'est d'établir une coopération de formation. C'est la vocation de nos écoles, à tous les niveaux, d'accueillir. Nous faisons des cadres étrangers, nous l'avons d'ailleurs déjà fait avec des Libyens, on peut le faire d'une façon beaucoup plus significative, plus importante, en tant que de besoin. Simplement, il faut définir les besoins.
Les industriels français de la défense ne sont pas en reste. Il leur est impossible le marché de fourniture de matériel sophistiqué de sécurisation des frontières. Des systèmes que les champions nationaux EADS et Thales ont notamment déployés au Maroc, en Arabie Saoudite ou au Qatar. Nul doute que la France compte bien mettre à profit sa relation privilégiée avec les jeunes autorités libyennes pour renforcer sa présence dans la formation du futur appareil de sécurité libyen. À Blajounaïdi, Tripoli, RFI.
Enfin, au Nigeria, la ville de Gombe, mise sous surveillance. Les habitants ne sont pas autorisés à sortir. La raison, selon le chef de la police, plusieurs hommes armés qui ont tenté de pénétrer dans la prison près d'un poste de police. La prison donc de Gombe, c'était vendredi soir. Comme ils n'y parvenaient pas, ils ont mis le feu au poste. Le chef de la police qui affirme qu'au cours de l'attaque, au moins 12 personnes ont été tuées, attaque qui n'a pas été revendiquée. À Gombe, où il est 4h44. Vous écoutez RFI, 3h44 en temps universel.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI et une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Vous écoutez Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Sur la bande CUT 89,5 FM. Une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Au pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Mélanie Boucher du Québec, grâce à RFI Musique sur CUT 89,5 FM, Toronto.
J'aime mes parents, j'aime mes enfants, les doigts pensants. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct, moi je t'aime. Je ne suis pas raciste, je suis droit de l'homme, je porte pas de fourrure. Je ne regrette pas la guillotine, je ne suis pas misogyne, je trie mes ordures. Puis, je le répète, politiquement correct. Moi je t'emmène. Je n'ai rien contre les motifs, je ne me sens pas menacé par les minarets. Je ne crois pas que les homos ne sont pas normaux, sauf les manches. Je suis une tapec politiquement correcte. Et moi je t'emmerde. Victime de la pensée unique, je suis, je l'avoue laïque, pendant que j'y pense. Je précise que je ne crois pas qu'il y ait trop de juifs dans les médias ou la finance. Je risque de te paraître politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Ça va te ressembler des masogues. Mais je déconseille la drogue, même aux mineurs. Je ne milite pas bien toi bien pour l'extinction des dauphins, je veux pas qu'ils meurent. Tout ça, naïf et bête, politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Je ne parle pas de la concierge, ni à la femme de ménage, comme à des chiennes. Il faut respecter tous les gens, je l'enseigne à mes enfants pour qu'ils deviennent. Un jour comme je le souhaite, politiquement correct, et on t'emmène.
Et oui, mesdames, messieurs, ben, nous nous excusons de ce petit pépin technique. C'est en effet Benabar que vous venez d'entendre. Et bien sûr, on vous présentera dans quelques minutes Mélanie Boucher, une artiste du Québec. Et oui, nous devons répondre aux exigences, n'est-ce pas, des lois de radiodiffusion. Les gens toujours nous demandent, est-ce que vous pouvez pas jouer uniquement de la musique africaine, de la musique antillaise, parce que ça nous met des fourmis dans les pieds, on aime ça bien danser en écoutant votre musique, surtout les gens qui nous écoutent sur le net, à La Réunion, à l'île Maurice, ou encore en Allemagne. Wiltrud, thank you very much for the nice card that we received a few days ago. J'espère que vous êtes à l'écoute. Elle nous écoute régulièrement, hein, en direct de l'Allemagne. Et j'espère qu'il fait un peu plus doux, plus chaud, que deux semaines de cela. Alors, Benabar, c'est un artiste français que vous avez peut-être entendu dans le passé. Sa carrière commence en 1997 avec la sortie de l'album La Petite Monnaie. Et quatre ans plus tard, il livre un opus éponyme et assure la première partie d'Henri Salvador. Malheureusement, qui nous a laissé un peu trop tôt. Hein? Il a fait tourner les têtes et les jambes, les hanches, ce Henri Salvador. Alors, je vous rappelle que Benabar sera à Bruxelles le 20 mars pour les gens qui nous écoutent en Belgique et le 26 mars à Genève en Suisse. Si cela vous intéresse, Benabar, madame, monsieur, politiquement correct. Et maintenant, nous allons avec Mélanie Boucher du Québec.
Mélanie
l'eau, voyant filer le temps. Il entre dans la ville, passe à côté de lui, pour changer d'air, changer de vie. Où allons-nous chaque jour? Regardez la mer, ses jeux d'enfants, poésie d'avant. Elle entre dans la ville sans regarder en bas, c'est dangereux d'aller au fond de toi. Où allons-nous chaque jour? Laissons nos rêves au carrefour. Où allons-nous chaque jour? Bonne maison, imagine, l'été indien, tout féminine. On entre dans la ville, on s'imagine, un chemin désert, penser à rien. Où allons-nous chaque jour?
Mélanie Duché, que j'aime particulièrement, et à tous nos amis qui nous écoutent dans la région de Trois-Rivières, du Québec, de Lévis, de Limoilou, je ne sais pas, toutes les régions méconnues de nos amis qui nous écoutent sur le net, eh bien, on vous dit bien le bonjour, bonjour chaleureux bien sûr, en direct de Hart House, l'Université de Toronto, pour nous joindre, c'est le 86. 946-7000, nous attendons vos prédictions pour cette cérémonie des Oscars, ce soir à partir de 18h, sur plusieurs chaînes de télévision. Qui sera le gagnant? Qui sera le gagnant? Eh bien, on verra bien qui sera des nôtres lors... Ben, The Artist, hein, beaucoup d'Américains d'ailleurs ignorent que c'est un film français. Et après les Césars, les Oscars, eh oui, c'est aujourd'hui... Mais le film a déjà conquis l'Amérique, The Artist, bien sûr, mais est-ce que c'est toujours pour les bonnes raisons, nous dit-on? Alors, il y a plusieurs télévisions, radios, médias, dans les rues de New York, de Los Angeles, de Miami, qui ont interviewé des gens. Un film muet, ma chère Morgane, comment expliquer que c'est un film muet qui fait la une des palmarès? Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. 10 événements à suivre de près aux Oscars, je trouve ça très intéressant. Alors il y a toutes sortes de pronos si vous allez sur les sites des radios, des télévisions en France ou aux États-Unis, moi je trouve ça formidable. Les personnalités à ne pas rater, les belles robes, les beaux vêtements et les scandales. Enfin, c'est bien américain tout ça. Pourquoi The Artist n'aura pas l'Oscar? C'est la grande question que se posent certains médias québécois et américains. On dit que The Artist aurait 10% de chance seulement, ou 10% de chance de moins que Cheval de Guerre de décrocher l'Oscar du meilleur film. Question de statistique, nous dit-on. Et en tant que critique américain, The Artist vous donne l'impression d'être intelligent. À la veille de la 84e cérémonie des Oscars, John Anderson, critique de cinéma aux États-Unis et directeur de New York Film Critics Circle, décode pour le journal L'Express français, pas d'ici, L'Express Culture, les raisons, les enjeux et la stratégie commerciale derrière l'engouement du public américain pour The Artist. Eh bien, M. Lazare, moi j'aimerais beaucoup que M. Lazare remporte ce prix. L'avez-vous vu, Morgane, M. Lazare? Un film touchant et qui relate la vie actuelle du pays, du Canada, en particulier du Québec. M. Lazare, à ne pas rater, Madame Monsieur, qui joue d'ailleurs actuellement sur nos écrans à Toronto. Le meilleur film des Oscars 2012, 86-946-7000 ou pot.pourri@sympatico.ca. À nous appeler, vous recevrez peut-être un t-shirt de CIUT, 89.5 FM, la deuxième radio la plus écoutée à Toronto, selon le Now Magazine du mois de novembre 2011. Oui, nous sommes la deuxième radio la plus écoutée dans la région de Toronto, population de 4 millions de personnes. Dans un instant, nous allons passer à une petite pause et aussi peut-être une autre musique, cette fois-ci, pas des Antilles, mais de l'île de la Réunion, parce que je veux absolument, absolument qu'on parle de ce qui s'est passé récemment. C'est un bouleversement et vous voyez venir ça, comme Mauricien, Malgache, Seychellois, Français aussi, parce que ça va mal dans les dom-toms, comme on dit. Il y a une crise. La vie est chère et voilà, cela a vraiment pris de l'intensité cette semaine, madame, monsieur. Il y a eu de la casse un peu partout, des jeunes, des moins jeunes, et donc il y a eu même des blessés. Alors, on tient tout ça en haleine, on espère que le problème sera réglé. Depuis le début des heures, 159 personnes ont été placées en garde à vue et 20 d'entre elles ont été incarcérées. Séances de travail se poursuivent, on négocie avec les syndicats, avec plusieurs factions de la société réunionnaise. Très intéressant de voir les Réunionnais qui se disent français, qui se disent créoles, qui se disent européens, parce que maintenant la France fait partie de l'Union européenne. La Réunion souffre d'un taux de chômage record. Fin 2011, plus de 30% de gens étaient en chômage et qui atteint 60% chez les moins de 25 ans. Les prix des produits alimentaires, ils sont de 36,6% plus élevés qu'en métropole, donc qu'en France. C'est incroyable. Oh, c'est un joli pays. Ah, mais il y a des problèmes. Alors, la campagne électorale est déjà lancée. Marine Le Pen était à l'émission de On est pas couché. C'était très intéressant, très animé hier soir. J'espère que vous étiez là. On pourra peut-être faire un débat avec nos amis français de la région de Toronto dans le cadre de la campagne présidentielle 2012. Si cela vous intéresse, la radio est à vous. On vous attend.
From the roof up, CIUT 89.5 FM, Toronto, presenting the history and the evolution of sound. 25 years and counting. CIUT 89.5 FM, Toronto.
Maloya, La Réunion,
Maloya, Zodila, Pugila, Zenotindio, Aguette, Daniel, il fait entrer son petit cadeau. Malouya do di la bougé la zéla pays de yo. Aguette Daniel, il fait entrer son son cadeau.
Yéba,
dans pays de yo.
Daniel, il fait entrer son cadeau. Yéba,
d'un côté notre beau.
Malouya Daniel, il coule bon.
la tombe des fibres au bonbons. Et n'a rayonné, il prend tout temps pour bon causement. La pour un manier, à la tombe des fibres au bonbons.
Et là, côté rayonné,
hommage que nous voulons rendre à notre façon à tous ceux et celles qui souffrent et qui aspirent à avoir un avenir meilleur. Et comme vous voyez, c'est pas toujours en quittant son pays et venir dans l'Amérique du Nord, par exemple, que tout est rose et tout le problème est réglé. On voit bien que même dans ces pays perdus du coin du monde, des petits paradis, il y a encore du travail à faire. Et donc, hommage à tous ces gens qui cherchent le dialogue et j'espère que la paix règne cette semaine dans les îles de l'océan Indien, mais ici en particulier on parle de l'île de la Réunion. J'aimerais vous proposer un rendez-vous assez extraordinaire et spécial que nous propose Radio France Internationale cette semaine sur le site de RFI. Fatou Diom, qui est écrivaine d'origine sénégalaise et auteur de « Celles qui attendent », c'est un nouveau roman et c'est présenté par Sonia Rollet de RFI et je vous invite à écouter cet entretien. La semaine prochaine, le 4 mars, nous recevrons avec bonheur le romancier, poète, ami de toujours, de longue date, de la première heure, Eddy Bouraoui. professeur émérite qui est auteur de nombreux romans, de recueils de poésie, de critiques littéraires et de contributions scientifiques pluridisciplinaires, qui vient de publier son nouveau roman, Paris Berbère, aux éditions Vermillon, à Ottawa, au Canada. C'est un roman poignant et émouvant, écrit dans une langue poétique et ciselée sur un sujet à la fois complexe et tabou concernant la guerre d'Algérie. Donc, Eddy Bouraoui sera des nôtres la semaine prochaine. Professeur, si vous êtes à l'antenne, bien le bonjour. Et puis le 20 mars de chaque année, comme vous savez, nous célébrons la journée internationale de la francophonie. Nous invitons tous les étudiants, les artistes, les professeurs, messieurs, madame, tout le monde, les organismes. Bien sûr, nous espérons avoir l'Alliance française et les autres partenaires de toujours d'être des nôtres. Si vous souhaitez participer à nos émissions ou à une de nos émissions au mois de mars, parce que tout au long du mois de mars, nous parlerons de francophonie d'ici et d'ailleurs, une occasion pour vous de rencontrer aussi, de faire du réseautage, comme on dit, et on ne sait jamais ce que cela pourrait apporter vous et votre les membres de votre association ou organisme. Alors, vous nous envoyez un petit courriel au plus tard mercredi cette semaine afin qu'on arrive à monter notre programme pot.pourri@sympatico.ca ou encore vous allez sur notre page facebook.com/popourrishow en un seul mot et le tour est joué. Nous écoutons un autre succès des Antilles, n'est-ce pas? Et puis, j'aimerais vous présenter une chanteuse malienne, une grande découverte de Salif Keita. Mais pour tout de suite, nous retournons aux Antilles. Eh oui, on continue à danser. On me dit qu'il faut faire vite. Les Oscars, c'est tout un moment. Eh, comment ?
La 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 Ouillé, ouillé. Et c'est Marc-André qui était au piano, hein. C'est joli, hein. Allez, Marc-André, une dernière fois. On s'amuse, madame, monsieur. Bravo. Les nouveautés de RFI Musique sur CUT 89,5 FM.
Apprenons le rythme et la cadence. Le rythme, RFI et la cadence.
Et oui, mesdames, messieurs, je vous rappelle que le titre de la chanson que vous allez entendre immédiatement, c'est French Cancan. Ça vous dit quelque chose, mes chers amis? Ils sont nombreux, hein, de l'autre côté. Même le directeur de la programmation, M. Ken Stowa. Bonjour, how are you doing? You want to say a few words to our listeners? It's the closure of the Black History Month today. So we are having a little fun. Look how many people are here. From France, from Pakistan, from Northern Ontario, from Philippines, from Mauritius. It's the United Nations, n'est-ce pas? Bravo, bravo. Merci à tous ces bénévoles, madame, monsieur. C'est formidable. Alors, l'artiste que vous allez entendre s'appelle Ina Modia. C'est une artiste d'origine malienne, repérée par Salif Keita. Elle a fait ses débuts au sein du Rai Band de Bamako et en 2009, elle a enregistré son premier album intitulé Every Day is a New World et révélation de la francophonie de l'année. C'était en 2012 au NRG Music Awards. Et écoutons le titre de cette chanson, The French Cancan, une voix à surveiller, Ina Modia, et nous remercions RFI Musique. I'm gonna tell you where you're trying to make me. déjà, madame, monsieur, sur les nouveautés de RFI sur CIT 89,5 FM. Dans un instant, un autre artiste qui fait le buzz en France et dans les radios européennes. Mais pour tout de suite...
Vous écoutez Popori sur CIT 89,5 FM de 11h à 13h chaque dimanche. Popori, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Soyez des nôtres sur CIT 89,5 FM, Popori, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Notre prochain invité est un artiste français et se fait connaître au grand public en remportant le concours télévisé français Nouvelle Star en 2006. Et l'année suivante, il enregistre son premier album Inventaire. Il est certifié double disque plutôt de platine en France et disque d'or en Suisse, en Belgique et plus de 900 000 exemplaires vendus en 2009. Et révélation de l'année au NRG Music Awards dans les catégories révélation française en 2008. Écoutons cet artiste, madame, monsieur, qui s'appelle Christophe Willem et qui nous interprète son dernier succès actuellement, qui s'intitule Cool. Yes, we are cool. Christophe Willem. Qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de ce voyage intercontinental et on vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. J'ai à ma droite ma chère collègue et amie collaboratrice Morgane. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Bien et vous?
Vous êtes en bonne compagnie hein, aujourd'hui, les prières, oui.
J'ai mon papa qui
vous... Oui, votre papa. Et on dit bonjour monsieur. J'espère que vous gardez un bon souvenir de votre passage au studio et au Canada. Qui sait? Et il aime beaucoup le poisson, hein, le papa.
Il est dans le poisson.
Il est dans le poisson, dans le ventre, la queue, la tête.
Je ne sais pas.
Moi, j'adore la queue de poisson.
Dans la flaque.
Oui. Queue de poisson, c'est très miraculeux. C'est... Ça vous apporte du bonheur, toutes sortes de choses très intéressantes à se parler pour les gens qui sont superstitieux. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec la musique? J'ai besoin de la musique, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre monde, dans votre monde?
Alors, le petit programme de l'Alliance française qui est bien occupé cette semaine, mercredi, il y a une conférence sur une rencontre sur l'identité franco-ontarienne au prisme du roman historique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la participation de notre ami Gilles Marchinon.
Mmh. Bonjour Gilles, comment ça va?
Voilà, donc Gilles qui est aussi également, à part être également le président d'Action Positive, il est aussi écrivain et scénariste.
Ah oui, oui. C'est lui ou son frère? Bien sûr.
Non, c'est lui.
C'est lui. Gilles, si tu nous écoutes, tu nous appelles tout de suite. Hein. On rectifie le tir.
Et qui va parler donc de thèmes autour de ce roman, de la quête d'identité en contact minoritaire, du métissage, etc. Donc ça se passe à l'Alliance française à 18h30, mercredi, ce mercredi, mercredi 29.
L'Alliance française qui est située pas loin du métro Spadina, 24 Spadina Road.
Exactement, oui. Sur internet alliance-française.ca.
Mmh.
Le jeudi 1er, donc le lendemain, et le vendredi également, à 19h30, une pièce en collaboration avec les disciplinés de Toronto, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Donc la pièce s'appelle La vie est une chanson et c'est une comédie musicale sans musique. Et oui.
C'est comme un film sans parole.
Tout à fait.
Ouais.
Et donc apparemment la majorité des textes est basée donc sur des chansons en français. Et parler. Donc ça peut être un programme assez sympa.
Oui.
Également présenté cette semaine au Théâtre français de Toronto, La Liste, qui est une pièce de Jennifer Tremblay, qui est mise en scène cette fois par Marie-Thérèse Fontin, et qui nous parle de liste.
C'est intéressant. Oui.
Qui met en scène donc l'histoire de cette femme qui raconte le décès de sa voisine et peut s'empêcher de se trouver responsable. Et qui, dans un décor censé nous faire comprendre la vie qui mène cette mère de trois enfants en bas âge, le monologue de cette comédienne donc, qui nous dévoile une femme qui en demande trop, en fait, le problème de la société qui en demande trop. Et donc cette recherche de perfection la travaille intérieurement et elle se met à dresser des listes de tout ce qu'elle a à faire, en fait.
À la ville comme à la campagne.
Exactement. Oui. Donc ça se passe du 29 au 4 mars, du 29 février au 4 mars, au Berkeley Theatre. Si vous voulez réserver, le 416-534-6604 ou sur le site théâtre, tout attaché, théâtrefrançais.com.
Les gens peuvent aller sur le site d'ailleurs de Théâtre français de Toronto et devenir aussi membre à part entière. Il y a pas mal de forfaits très intéressants pour les personnes âgées, comme moi, les personnes de l'âge d'or. Les personnes de l'âge d'or. En France, on ne dit pas l'âge d'or, hein.
On dit le troisième âge.
Troisième âge. Moi, je suis quatrième âge.
Quatrième, cinquième.
Ouais, oui. Alors donc, on dit bonjour à tous nos amis du Théâtre français de Toronto. D'ailleurs, le Théâtre français de Toronto présente actuellement une pièce de Sylvie Drapeau, qui est sur scène dans la liste de Jennifer Tremblay, que vous venez d'annoncer. Alors donc... c'est la même chose. Alors, voilà. Et puis, le consulat général de France, madame, monsieur, vous invite à aller voir Robert Bresson, qui est l'un des réalisateurs français de l'après-guerre les plus vénérés, récit d'une beauté rigoureuse. Donc, cela dure jusqu'au 18 mars au TIFF Bell Lighthouse. Jusqu'au 18 mars, à ne pas rater. C'est dans le coin du centre-ville de Toronto. C'est la rue John A. King. À ne pas rater. TIFF Bell Lighthouse, vous allez? C'est très joli, hein?
Ouais.
Comme un musée. C'est vrai, il y a des endroits pour votre papa, là. Faites un itinéraire cette semaine pour essayer d'aller voir les endroits les plus chics de Toronto, mais aussi les endroits qui se différencient un peu de la France, de Paris, des autres endroits touristiques de France. C'est des endroits à découvrir, hein, Toronto.
C'est notre ville.
Donc vous avez la liste, le parcours, pas de GPS, hein?
Pas de GPS.
Pas de GPS. C'est mieux de marcher avec un vrai guide.
À la découverte.
Vivant. Solide. Alors, et quoi d'autre encore? Autre chose? C'est tout? Alors, je dis merci à l'Express de Toronto, Radio France Internationale Musique. Merci Morgane, merci Capitaine Devera, merci à Tania. Tania, we say thank you very much for being here. And hope to see you next week, every week. Yes?
Elle parle français.
C'est un engagement?
à la radio. Oui, Tania a dit oui, elle sera là. Tout au long de l'année, c'est formidable. Et bien sûr, son ami Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Alors on vous dit bonjour et puis la semaine prochaine, hein, on va recevoir monsieur Elie Bouraoui, professeur et ami, et il sera très intéressant de lui présenter son dernier roman. Madame, monsieur, sans plus tarder, je vous laisse avec Cassav pour tous nos amis. Les anciens. Salut. Attention.